Donc, il y a deux micros, je vous laisse gérer pour deux micros tous les trois.
Pour trois ? Ouais. C'est pauvre. Hein.
Donc, tout d'abord, j'ai une annonce à faire, c'est que pour des raisons techniques, on va vous demander, s'il vous plaît, en sortant, de donner vos codes postales. Donc, monsieur qui est ici. Donc, donc, si vous pouvez penser à donner votre code postal à monsieur, ce serait très bien.
Pour avoir une idée un petit peu d'où viennent les visiteurs du festival.
Okay. C'est un flicage, faites surtout pas ça.
Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin du micro ou est-ce que ça suffit si on parle ?
Comme ça, c'est bien.
C'est très bien ?
Ce
sera peut-être plus... Ça vous va ?
Oui, oui. Moi, c'est bon. Moi, je sais pas, c'est de forcer.
Bien, donc je vous remercie beaucoup d'être là, si nombreux, et donc pour accueillir nos trois auteurs qui vont nous parler aujourd'hui de planètes. Voilà, donc... qu'on nous a demandé de discuter pendant une heure et demie, c'est les planètes dans les écrits. Est-ce qu'on les invente? Comment est-ce qu'on les crée? D'abord, est-ce qu'on travaille sur des planètes? Est-ce qu'on travaille sur des lunes, des soleils, des galaxies ou un petit continent, voire un vaisseau? Et pour parler de tout ça, nous avons donc trois personnes. Alors, je m'en suis excusé auprès d'eux tout à l'heure avant de démarrer. Nous n'avons qu'une heure et demie, donc je ne vais pas faire leur bibliographie. Je n'ai pas le temps.
C'est ta faute.
Elle écrit vachement aussi.
Voilà. Et donc, je vais commencer par vous présenter, si vous ne la connaissez pas déjà, donc Daniel Martinigol, qui a écrit 48 romans.
Non, j'en suis au 45e, là.
45e.
Et il y a des projets pour arriver peut-être jusqu'à 48, mais pour l'instant, c'est 45.
Donc, un nombre conséquent parle de différentes planètes, enfin, se passe sur différentes planètes. Donc là, on en a sélectionné trois qu'on vous présente ici. Donc, les Abîmes d'Outre-mer, Charlex et les Oubliés de Vulcain, mais qui sont que trois exemples de ce qu'elle a pu nous offrir. Ensuite, nous avons Pierre Bordage. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup.
C'est là, présent. Non,
donc, Pierre Bordage, bon, il y a tellement d'ouvrages. On peut parler dans le thème un petit peu de ce qu'on a sur les guerriers du silence, hein, où il y a quand même une collection de planètes assez conséquente. Absalom, comment tu le prononces, Absalom ?
Absalom.
Qui ne se passe pas réellement sur une planète, mais qui se passe dans un contexte quand même qui a demandé un certains travail. On a la fraternité du Panka aussi. Enfin bon, voilà, puis beaucoup d'autres. Et Sylvie Lainé, donc qui est une grande novelliste.
C'est ça, oui, c'est plus petit les nouvelles.
Ouais, enfin, quand on les rassemble, ça fait gros.
Oui, il en faut beaucoup pour faire un gros volume.
Voilà, mais il y a aussi de nombreuses nouvelles de Sylvie Lainé. Alors, on va parler de planètes. Et donc, j'ai essayé de réfléchir et de remonter dans le temps aux premières personnes qui ont parlé de planètes et d'environnement, on va dire, extraterrestre dans l'histoire de la littérature. Vous avez des noms à citer
ou... Quelques-uns. Des anciens.
Des anciens, des très grands anciens.
Lucien, deuxième siècle. Il y a Rabelais, avec l'histoire sur la Lune. Il y a Voltaire. Voltaire, c'est Micromégas, c'est quelque chose sur Terre, mais avec un... Oui, il y a déjà quelques anciens qui ont pensé le sujet déjà, c'est-à-dire de sortir de Terre pour nous envoyer sur notre astre le plus près de nous, qui est la Lune. Mais...
Cyrano de Bergerac.
Cyrano de Bergerac, bien sûr. Empire du Soleil, Empire de la Lune. Il y a certaines choses que j'ai dit. Mais dans la littérature, il y a eu déjà quelques exemples. Ouais.
Après, si on commence à se rapprocher, à parler un petit peu plus spécifiquement de science-fiction, si on peut parler, donc, enfin, moi, j'ai pensé à Edgar Rice Burroughs, à Jules Verne, avec son Voyage dans la Lune, enfin, peut-être d'autres. Et alors après, je dirais que plus on se rapproche de nous, plus il y a de littérature sur le sujet. Mais je pensais à Jacques Vance, qui aussi a fait énormément de choses. Ah oui, Isaac Asimov.
Ouais.
qui nous a promenés quand même.
C'est un auteur mineur, mais bon, c'est pas grave.
Bradbury. Bradbury avec les chroniques
martiennes.
À peu près la moitié de la science-fiction.
Oui, voilà.
Donc vous avez une heure et demie en liste.
Voilà, on va pas arrêter là. C'était pour vous donner une idée que c'est quand même quelque chose qui a été récurrent, qui est important dans la science-fiction, de parler des planètes. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le sujet. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, lorsqu'on écrit un livre, dans quel contexte, d'où émerge le besoin de créer une nouvelle...
Je me lance ?
Oui, pas trop loin.
Moi, je fais remonter ça à ma passion pour les étoiles. Quand j'étais petite fille, je regardais le ciel étoilé avec mes yeux de myope, parce que j'ai porté des lunettes assez tard. Et les étoiles, quand on est myope, le faisceau lumineux, si j'ose dire, est quelque part plus gros. Quand je veux me régaler un ciel étoilé d'été, moi j'enlève mes lunettes et je regarde le ciel étoilé sans mes lunettes. Et du coup, je vois plein de petites taches lumineuses dans le ciel. Et je pense que cette fascination que j'avais quand j'étais enfant pour les étoiles a fait que du jour où j'ai découvert la science-fiction et qu'il y avait des auteurs qui avaient joué avec ce genre de choses et qui s'étaient amusés à imaginer des planètes autour des étoiles, ça m'a vraiment tout de suite fasciné. C'est pour ça que je me plais à jouer aussi avec ça et à créer des mondes.
Voilà. Donc c'est pas un besoin, c'est une envie.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est dans ma nature profonde, moi, de m'intéresser... je me suis intéressée à la science-fiction par l'astronomie, en fait. Et c'est quelque chose qui semble fascinant de savoir que quand on regarde un ciel étoilé, on regarde le passé, le temps que la lumière des étoiles nous arrive, on ne sait pas si elles existent encore. Et donc, ça a quelque chose d'énormément interpellant sur notre propre condition humaine, notre fragilité, et la fragilité, par même occasion, de notre propre planète et de notre propre système solaire. Je crois que j'étais capable de nommer certaines étoiles et certaines constellations, alors que je ne connaissais pas encore exactement tous les états limitrophes de la France. J'ai toujours dit, je suis terrienne, je suis européenne, je suis française et je suis bourguignonne. Je pars du plus loin, si j'ose dire, parce que pour moi, avant toute chose, c'est la Terre qui est importante, c'est ma planète, et du coup, cette planète-là, la mienne, m'a amené à m'interroger sur les autres. Alors, il faut savoir que quand moi j'ai commencé à lire la science-fiction et même à en écrire, on n'avait pas encore trouvé d'exoplanète. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui est important à savoir. C'est-à-dire que l'écrivain de science-fiction que j'ai commencé à être était entièrement libre d'imaginer, si j'ose dire, des planètes à sa convenance. Moi, je les ai choisies, je les ai créées comme ça me plaisait. Maintenant, on ne peut plus faire exactement n'importe quoi. On peut s'amuser. Hein. Celles qu'on connaît, elles ne sont pas très loin, finalement. Mais il y a des choses qui sont scientifiquement plus posées, voilà, plus posées maintenant. C'est à vous, hein, vous hein.
À moi.
À toi.
Alors, qu'est-ce qui m'a attiré dans le fait de créer les planètes? Je pense que ça vient de la lecture de Dune. C'est un univers. Enfin, j'étais transporté dans un nouvel univers, et ça, comme le terrain de jeu c'était l'espace, et que je me suis tout de suite approprié le terrain de jeu de l'espace, et évidemment que les planètes sont venues s'ajouter. Les unes après les autres, parce que d'une part ça permettait des voyages extraordinaires, des découvertes extraordinaires, c'était une forme d'exploration imaginaire, comme disait Daniel, c'était aussi avant les exoplanètes, une forme d'imaginaire que je recherchais énormément, parce que ça crée beaucoup de vertige, et donc ça effectivement remet en perspective notre propre monde, notre propre perception de l'univers, et moi c'était élargir un maximum le terrain de jeu, emmener les gens dans l'incroyable, dans le fabuleux. Le voyage m'a toujours intéressé, donc il y a un but au voyage qui est une sorte de destination qui sont des planètes. Souvent, c'est des colonisations, donc c'est tout à créer. Et je pense que le space opéra, puisqu'il s'agit de space opéra ou de planète opéra, c'est le merveilleux dans la science-fiction. Et j'avais besoin de ce merveilleux-là pour la science-fiction pure et dure, parce que Daniel parlait des impératifs scientifiques ou technologiques qui nous sont imposés finalement par les découvertes. C'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect merveilleux de la chose, c'est-à-dire aller sur un monde complètement différent, inconnu, avec des arbres qui volent, avec des choses incroyables, une gravité différente, un système d'étoiles différent, des satellites différents, jouer avec tout ça, par exemple faire des planètes avec une binaire à éclipse, c'est-à-dire deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre, etc., qui changent des couleurs, parce qu'il y a une bleue, une rouge, etc. Et ça donne des univers assez fabuleux qui, moi, me plaisent d'explorer. Vraiment, c'était l'attrait du merveilleux pour moi, parce que je pense que dans la science-fiction, dans l'anticipation, on va souvent vers des univers un peu dystopiques et sombres, et le merveilleux de la science-fiction se niche encore dans l'espèce opéra, la découverte.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre.
Bon, moi, c'est bon.
Mais tu en diras un peu plus quand même. Moi, j'écris des nouvelles, donc j'ai commencé par écrire des nouvelles qui n'étaient pas spécialement du space opéra. C'était des choses... Il y avait toujours un élément de surprise, il y avait des tas d'occasions d'approfondir la technologie, les univers virtuels, les doubles, les robots. Il y a déjà plein de choses avec lesquelles jouer. Et finalement, je me suis mis assez tard au space opéra. C'est mon avant-dernier recueil qui était intégralement sur des thématiques de space opéra. C'est l'opéra Tchaïa. Et ben en fait, c'est vraiment l'occasion d'agrandir son terrain de jeu. Alors, moi, je ne dirais pas tout à fait la même chose que mes camarades, parce que ce n'est pas, pas l'émerveillement de l'astrophysique qui a été premier. C'est plutôt le plaisir d'inventer des écosystèmes, d'essayer d'inventer des systèmes cohérents qui ne sont pas forcément très proches des nôtres, mais dans lesquels il y a d'autres complémentarités entre les espèces, éventuellement d'autres cycles biologiques, d'autres relations sociales. Mais dès que les créatures sont différentes, en fait, il suffit que la planète soit différente pour qu'on puisse imaginer des créatures complètement différentes. Mais en même temps, si on reste sur Terre, on ne peut pas imaginer des créatures complètement différentes. On commence à la connaître un peu trop bien.
Si, Donald Trump.
Oui, mais tu disais qu'on restait dans des univers qui n'étaient pas sombres et dystopiques. Donc, pour essayer de retrouver le merveilleux, oui, essayer d'inventer d'autres formes d'évolution, d'autres biologies. Et pour ça, faut partir d'ailleurs, parce qu'on connaît quand même un peu trop bien, même s'il y a encore des espèces animales ou végétales qu'on n'a sans doute pas encore découvert sur Terre, dans les profondeurs ou dans des endroits assez peu accessibles. Même si en ce moment, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu en Sibérie, est-ce que je vais réussir à dire ça de manière un peu scientifique et cohérente, sans réviser. J'aurais dû réviser avant. Le réchauffement du permafrost fait qu'il y a actuellement certaines parties des plaques continentales qui sont en train de s'effondrer. Et il y a des endroits en Sibérie que apparemment les habitants appellent la porte de l'enfer, qui sont des lieux où il y a eu des effondrements extrêmement profonds et qui continuent actuellement. Ça a dû s'effondrer, alors j'ai pas suivi, en quelques semaines ou quelques mois, c'est-à-dire très rapidement, mais ça continue à se creuser. Et les archéologues sont complètement fascinés parce qu'en ce moment, on doit être à une profondeur où on peut regarder les espèces, c'est les plantes, les créatures éventuellement qu'il y avait il y a 3 ou 4 000 ans. Mmh. Mais si ça continue à se creuser, on va aller encore plus profond, comme disait Daniel tout à l'heure, en regardant les étoiles. Plus le sol s'effondre, et plus on peut regarder loin dans le passé. Bon, mais même si on ne connaît pas tout sur Terre, on a quand même une idée assez précise de l'évolution des espèces, des filiations entre espèces. À un moment donné, on est bridé pour inventer une créature... qui fonctionnerait sur des principes différents. On peut se reproduire sur Terre par scissiparité, en se coupant en deux, on peut avoir une reproduction sexuée.
Oui, ça doit faire
mal. Puis il n'y a pas grand-chose de plus. C'est ce que tu préfères, non ?
Avoir mal ?
Non. Se reproduire en se coupant en deux.
J'adore ça. Là, il manque des bois partout.
Il faut donner de sa personne quand on est auteur.
C'est ça.
Alors là, si je vous écoute bien, d'après ce que j'ai entendu, vous parlez de planètes en fait qui vont vous servir de support à des présences, à des activités de personnages. Mais est-ce que ça vous arrivait de réfléchir ou de penser à des planètes ou des lieux ou des systèmes solaires, la taille importe peu dans le concept.
C'est comme pour tout.
Voilà, c'est comme pour tout. Est-ce que vous avez pensé à les voir Est-ce que vous avez pensé à les voir en tant que eux-mêmes personnages, que partie, pas simplement en toile de fond de vos romans, mais en tant que personnage, que partie prenante. Je pense à Charlex, où pour moi, la planète en elle-même est un ennemi. Elle est là. Elle n'est pas simplement un lieu exotique où faire agir les gens. Elle interagit avec les gens.
Moi, j'ai la sensation de créer des planètes qui sont monotaches. J'en ai fait une volcanique, j'en ai fait une maritime, j'en ai fait une forestière. Je suis parfaitement consciente, mais j'écris pour la jeunesse. Alors, je ne peux pas non plus me perdre dans une foule de détails pour montrer qu'au pôle Nord, à l'équateur, enfin, etc., ce n'est pas obligatoirement la même chose. Avant d'entrer, on disait que dans beaucoup de séries télévisées, les personnages arrivent toujours au même endroit du monde. Hein, moi, j'ai cité Stargate, qui est une série télévisée que j'adore. Ils débarquent toujours dans une forêt. C'est génial. D'ailleurs, il y a un épisode où le personnage, là, je ne me rappelle plus, celui qui est incarné par Richard Dean Anderson, dit des forêts, toujours des forêts, encore des forêts. Et j'ai adoré ça parce que je me suis dit, bon, c'est bien, au moins ils en sont conscients. Hein, et donc, moi, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que pour écrire pour la jeunesse, je suis obligée de donner un aspect assez particulier au monde. Et ça, c'est finalement, ça ne se passe pas sur tout le monde. Quoi. C'est une partie du monde qui est envisagée. Et dans Charlex, je ne me suis pas du tout posé la question de savoir ce qui se passait au pôle Nord. Hein. Je suppose que cette planète étant envahie par... une herbe mutante qui est... Ce roman-là, c'est un réquisitoire contre Monsanto. Je ne l'ai pas dit trop fort, parce que je ne voulais pas me fâcher avec les Américains, mais en fait, c'est exactement ça. C'est montrer comment une terraformation peut être un échec total à partir du moment où on a voulu déforester, introduire des espèces végétales humaine, etc. Et puis, on n'arrivera jamais à nettoyer complètement un monde. C'est impossible. Il reste le petit truc là qui fait qu'il y a une herbe qui s'est mélangée avec les herbes terriennes, et puis celle-là, elle envahit tout, et elle est particulièrement mortelle, si j'ose dire, pour le monde. Mais ça se passe en général dans la zone tempérée. Hein. Je ne me suis jamais vraiment trop posé la question de ce qui se passait. Si, j'en ai créé une glaciaire aussi. Justement, je me rattrape en fait, hein, c'est-à-dire que je me dis, mince, j'ai oublié de parler des pôles dans celle-là, bon, la prochaine, elle sera gelée tout entière, comme ça, ça... Et parce que c'est un travail gigantesque de créer un monde. Quand on réfléchit bien, tiens, dans Gigante, par exemple.
Oui, Gigante, hein, ça.
Parce que dans Gigante, moi, j'ai suivi ça de très près, puisque mon co-auteur Alain Grousset, avec lequel j'ai écrit 28 romans, m'a fait une infidélité monstrueuse en écrivant avec lui. Hein, alors, donc, c'est vrai que Gigante, en plus, c'est un monde tellement fabuleux, vous n'avez pas pu tout envisager. Hein, c'était pas possible. Et on est obligé de sectoriser, si je veux dire, la planète qu'on crée pour montrer un aspect des choses, en fonction, justement, des personnages qu'on a envie de faire évoluer sur ce monde, avec l'intention de faire vivre une aventure qui est ciblée, effectivement, hein, comme le disait Sylvie, vers les écosystèmes, vers les réactions humaines face à un monde, etc. Mais je ne pense pas... À ma connaissance, je n'ai jamais vraiment lu un roman où l'auteur a tout envisagé. Hein. Parce que quand on regarde la Terre, c'est quand même savoureux, tout ce qu'il y a comme différence d'un bout à l'autre de la planète, et elle est toute petite, celle-là. Hein. Et donc, on ne peut pas créer vraiment un monde. Il y a un de mes lecteurs un jour qui m'a posé une question, qui m'a interpellé, qui m'a dit « Qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise quand vous arriverez devant lui ?» Alors, bon, ça m'a un peu bloqué, parce que dans une classe d'ados, quand même, c'est pas très fréquent ce genre de question, mais c'était dans une école privée. Donc j'ai dit à mon jeune lecteur et au public par même occasion, j'ai dit « Écoute, il y a un présupposé dans la question qui fait que je rencontre Dieu. » Je dis ça, personnellement, j'y crois pas trop, mais enfin bon, je vais quand même répondre à ta question. Et ça m'est apparu d'une façon évidente. J'ai répondu, si je rencontrais Dieu, j'aimerais qu'il me dise en premier, j'ai tellement aimé vos mondes que je les ai créés. Et c'est pas mal, hein, j'en ai fait pas mal quand même.
C'est un boulot monstrueux. Surcharger Dieu.
C'est pour ça qu'on ne le voit pas trop.
Non, parce que ce que tu disais, c'est juste parce que quand on est sur Terre, on traverse plein de paysages qu'on ne connaît pas. C'est par nos yeux qu'on découvre la Terre, finalement. Chacun de nous découvre des univers, arrive à un aéroport et voit une ville de loin, il passe et on ne peut pas s'attarder sur cette ville parce qu'il n'est que de passage. Et c'est la même chose quand vous avez des personnages sur une planète. Comme ils découvrent tout par leurs yeux, on est obligé de tenir compte de ce qu'ils voient eux. Parce que c'est, pour moi, je travaille comme ça, c'est mes personnages sont mes vaisseaux à moi. Et ils me font découvrir certains aspects de la planète pour des raisons évidemment qui sont liées à l'histoire. L'histoire du roman, hein, pas l'histoire tout court. Et donc, on ne peut pas, comme tu disais Daniel, on ne peut pas décrire entièrement une planète parce que d'abord, il faudrait une encyclopédie géante. Ça ne suffirait probablement pas. Et qu'on prend de cette planète des éléments qui nous intéressent pour développer tel ou tel aspect de l'histoire. Et là, pour Gigante, par exemple, effectivement, déjà la planète, déjà scientifiquement, elle ne tient pas la route. Mais on s'en fout parce qu'on a dit, il y a des exceptions dans l'univers. Et elle en fait partie. Et personne ne peut me prouver le contraire pour l'instant. Donc c'est bon, jusqu'à ce qu'on trouve une planète qui fasse 18 fois la Terre, hein, ce qui est normalement impossible, ça devrait s'effondrer sur elle-même. Mais nous, on a une structure dedans, qui est une structure cristalline qui fait qu'elle tient bien la route. Et, alors ça fait une planète qui, on met 100 ans pour faire le tour. Donc évidemment, on ne peut pas... c'est pour ça que c'était un univers ouvert, on avait dit, si d'autres auteurs s'en emparaient, parce qu'il y a forcément d'autres aspects à découvrir de cette planète. Et nous, c'était par rapport à l'histoire qu'on avait inventée. J'ai essayé de raccourcir les distances en inventant un système de voyage qui est celui par les flux électriques, qui traverse la planète et une sorte de grands orages qui arrivent de temps en temps. Mais c'est impossible de décrire toute une planète. On a déjà assez à faire avec ce que voient nos héros et ce que vivent nos héros. Après, il y a quelques grands cas de figure qui se présentent, qui sont par exemple la gravité. Est-ce que ça va nous faire une gravité forte et donc modifier la constitution peu à peu? Une gravité faible, est-ce que les jambes, par exemple, vont continuer à être importantes dans la mesure où on peut simplement par une impulsion voler d'un endroit à l'autre, donc les jambes vont peut-être se modifier, enfin ce genre de choses, quoi. Est-ce que c'est une planète glacée, et puis donc on vit dans les profondeurs, est-ce que c'est une planète ultra chaude, et on vit aussi dans les profondeurs, etc., etc. Donc c'est toutes ces questions qui se posent, mais qui ont un rapport avec les personnages, parce qu'encore une fois, c'est une vision subjective, à la fois de l'auteur et du personnage, d'ailleurs, d'un monde, comme nous, sur Terre, on a une vision subjective, quand vous traversez, ça, par exemple, une fois ça m'est arrivé de transiter par l'aéroport Dubaï, ouais, c'est un lapsus, et à Dubaï, j'ai eu le simple fait d'aller à l'aéroport, j'ai eu un tas de gens qui étaient très bizarres pour moi, hein, des femmes voilées, mais voilées intégralement, c'est-à-dire sans même la grille au niveau des yeux, et il y en avait une qui avait ce truc, elle avait un voile noir et des lunettes de soleil par-dessus, et je me suis dit, c'est quand même vachement étrange comme monde, quoi. Et je ne savais rien d'eux et je me suis posé énormément de questions sur cette peuplade-là, dont les hommes étaient tous habillés pareil, avec des calots, une grande barbe sans moustache, des sortes de tuniques flottantes avec des gilets et des pantalons bouffants. Mais c'est quoi ces gens-là, quoi? Et je sais que je ne les connaîtrai jamais parce que j'ai juste passé à côté un jour dans la file de l'aéroport. et que finalement, bah, c'était un regard comme ça, fugitif sur un monde. Et j'ai l'impression que sur cette planète, c'est pareil, on a des regards fugitifs qui se promènent comme ça. Et puis, si on est intéressé par un univers parce qu'on a une destination précise à ce moment-là, et bien c'est là qu'on va découvrir un peu plus de ce monde-là. Mais pas dans sa globalité, ça me paraît impossible.
Alors, c'est encore plus vrai avec les nouvelles.
Oui, ça, c'est sûr que le type de récit, il influe là-dessus, et qu'on peut se poser la question de tout décrire quand on a un grand roman ou un cycle encore plus, que l'on peut vraiment approfondir. Mais de toute façon, le principe de la nouvelle, c'est de se centrer sur une histoire, sur un vécu, sur un événement. Donc on ne se pose même pas la question d'être complet et de tout passer en revue. Mais je me disais que si on se posait la question à des auteurs de littérature générale, je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un auteur de littérature générale à qui on demande si dans son récit, il décrit l'ensemble de la Terre, de sa diversité, de sa population, de ses climats.
Saint-Germain-des-Prés, éventuellement.
Oui, donc, où le récit est vraiment aussi localisé que quand il s'agit d'une clairière dans Star Trek ou d'une forêt dans Stargate. Je voulais juste revenir sur un point qu'a dit Pierre tout à l'heure. Pierre disait, on découvre par les yeux de nos personnages. Oui, c'est vrai, en général, si le prétexte du voyage, c'est d'avoir un voyageur humain qui se trouve dans un lieu exotique, qu'on voit par ses yeux, on peut choisir de voir aussi par les yeux d'un autochtone, hein, d'un extraterrestre. Mais pour revenir sur les voyages dont tu parlais, qu'on fait sur Terre, moi, je sais que les chocs les plus violents que j'ai eus à la sortie d'un aéroport, ce n'est pas des chocs visuels. C'est, par exemple, dans des voyages au Maghreb, l'odeur. À la fois la chaleur, la température n'est pas la même que celle de l'endroit d'où on vient, mais les parfums poivrés, musqués, des plantes et des arbres qui ne sont pas du tout celles de l'environnement d'où on vient. Pour moi, le dépaysement le plus intense, c'est les odeurs sur un sol nouveau. C'est le premier choc qu'on prend de plein fouet, avant même d'avoir commencé à regarder autour.
C'est tout à fait vrai. Quand je suis allé en Inde la première fois, j'ai été saisi par l'odeur, qui était une sorte de mélange d'épices et de charognes, qui était partout. Et je suis sorti à minuit de l'avion, et c'était impressionnant d'être dans cette odeur-là, qui était complètement dépaysant. Peut-être que c'est un sens très primitif, et donc il est très sensibilisé tout de suite.
Et ça nous touche très profondément, une odeur.
Ouais. Putain, c'est profond.
Bon, donc on voit bien qu'on peut faire des territoires de taille différente en fonction des besoins, parce que gigantesque, c'est... Voilà.
C'est gigantesque.
C'est gigantesque.
Par contre, pour
une nouvelle, comme je dis, sur Star Trek, forcément, la planète, elle fait 200 mètres carrés, c'est la taille du studio. Elle ne peut pas faire plus.
60 mètres carrés.
60 mètres carrés. Optimiste. Et donc, je voudrais revenir sur quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé, mais je voudrais un peu approfondir, sur la notion de réalisme. Effectivement, Jean-Pierre a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Lorsqu'on invente un monde, est-ce qu'on doit être réaliste? Oui ou non, hein, c'est ouvert. Est-ce que c'est limitant d'être réaliste et à ce moment-là, on vaut mieux innover, inventer, partir dans des délires? Est-ce que c'est jouissif de partir dans des délires? Est-ce que c'est embêtant parce qu'il faut tout inventer? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qu'on sait ne nous limite pas beaucoup, parce que maintenant on sait qu'il existe des exoplanètes, mais ce qui se passe dessus, on n'en sait quand même pas grand-chose. Hein. On a même pas d'image de ces exoplanètes. Si j'ai bien suivi, c'est des images reconstituées où tout est intégralement calculé d'après la déperdition de lumière qui émane de l'astre quand la planète passe devant. On fait des tas de calculs qui permettent de savoir à peu près quelle est sa masse et à quelle distance du Soleil elle est et quelle est sa trajectoire elliptique, et puis c'est tout, le reste on ne sait rien. Donc ça ne nous bride pas beaucoup. D'autre part, ce qui pourrait nous brider, en gros, pour imaginer qu'il y a des êtres vivants sur une planète, il faut mieux qu'il y ait une atmosphère, par exemple. Non, mais on ne sait pas.
Oui.
Moi, j'ai une de mes planètes pour que sable soit tout à fait heureux. C'est pas forcément indispensable qu'il y ait une atmosphère. La plupart du temps, on en met parce que c'est quand même plus facile d'imaginer, de projeter des émotions, des actions qui ont un sens pour nous dans des créatures qui nous ressemblent un minimum. Donc, le fait qu'elles respirent, qu'elles puissent communiquer en faisant du bruit comme on fait là maintenant. Il faut qu'il y ait une atmosphère pour qu'on puisse entendre. Dans l'espace, on ne devrait pas entendre les vaisseaux rugir.
Ce serait dommage, Star Wars perdrait beaucoup de charme.
Mais je pense que si le cinéma essayait d'être réaliste, ça le briderait. Mais que nous, auteurs, si on essaie de s'en tenir à des choses plausibles, je n'ai pas l'impression que ça nous bride beaucoup.
Non, parce que je pense que... il y a quelques notions d'astrophysique. Mon premier roman, donc Guerre du silence, dans Terra Mater plus exactement, il y a une planète avec tout un truc, et moi j'avais prévu un système où la planète est un peu engloutie par son soleil, enfin, un truc vachement beau, j'étais fier. Et mon éditeur, Pierre Michaud, qui est très scientifique, il m'a annoté à la marge, Pierre, ceci est impossible parce que premièrement ceci, premièrement, deuxièmement cela, troisièmement cela. Je dis, ouais, mais moi si j'aimais bien ce système, il me dit c'est impossible. Et donc, j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je tienne compte de certaines lois physiques ou astrophysiques connues pour garder la crédibilité. Parce qu'évidemment, on cherche toujours la crédibilité. L'effet de réel, dont parle Daniel ce moment-là. Chercher un effet de réel permanent, ça veut dire que si on aborde une loi qui peut être connue, quoi, la gravité, on sait à peu près calculer la gravité, eh ben, on est obligé d'en tenir compte. Parce que si on n'en tient pas compte, il y a quelque chose qui n'ira pas, qui fissurera la construction imaginaire. En dehors de ça, c'est comme les vaisseaux, quoi. Les vaisseaux, ça ne marche pas pour l'instant. Hein. Donc c'est un peu de la magie, c'est de l'invention pure. Je veux dire, aucun vaisseau, aucun engin ne va plus vite qu'à la vitesse de la lumière jusqu'à preuve du contraire. Ni même ne va à une vitesse extraordinaire qui ne soit pas forcément celle de la lumière. Donc on est loin de ces inventions-là. Donc il y a une partie de magie d'invention dans ces univers. Mais à partir du moment où la loi n'est pas connue, n'est pas authentifiée par la communauté scientifique, eh bien on a, je pense, beaucoup de droits. Donc on n'est pas bridé, faut simplement outrepasser les lois connues, je pense.
Je pense à l'hyperespace en t'entendant parler, parce que l'hyperespace, c'est un espèce d'abracadabra des écrivains de science-fiction.
Et les trous noirs aussi.
Oui, les trous noirs aussi. Mais qui permet de passer directement d'un endroit à l'autre. Moi, quand je suis devant des gamins, je fais la démonstration avec une feuille de papier, je trace un grand trait rouge en travers d'une feuille de papier, et je dis, voilà, pour aller de là à là dans le plan, il va falloir très longtemps, je plie la feuille, et je dis, voilà, c'est ce que font la plupart de mes vaisseaux spatiaux, ils plient l'espace, etc. Et avec la feuille repliée comme ça, qui montre qu'on va d'un point à un autre instantanément, les gamins comprennent très très bien ce que c'est que l'hyperespace, et ils comprennent très très bien aussi qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Hein, Alors c'est là qu'on a aussi la différence entre les écrivains de Hard Science qui veulent vraiment respecter toutes les normes possibles, etc. À ce moment-là, on ne va pas très loin, hein, comme le dit Pierre, on va déjà mettre un sacré bout de temps pour sortir du système solaire. Alors, soit on reste limité à ça, et puis on respecte ça, et je trouve qu'il y a certainement des gens qui ont écrit des choses passionnantes aussi dans ce domaine-là. Moi, c'est le fait d'aller au-delà de ces limites-là qui fait que j'aime tenter. Moi, mes livres ne suivent pas, mais en fait, on va de plus en plus loin dans la... Je me suis limitée pour l'instant à la galaxie de la Voie lactée. Hein. J'ai tenté une sortie vers Andromède quand même, mais on est un tout petit système solaire sur une galaxie qui est perdue au milieu de maintenant, paraît-il, de millions et peut-être de milliards d'autres. Ça, c'est le vertige, hein, c'est les fameux deux infinis, etc. C'est par les personnages qu'on ramène effectivement à une dimension de compréhension, d'une certaine façon. Hein. Moi, je prends souvent comme référence le film Avatar, parce que Avatar, en question de ça, il respecte quelque chose qui est assez logique. La grosse géante gazeuse autour de laquelle tourne la petite lune Pandora orbite elle-même autour de Proxima du Centaure, et c'est l'étoile la plus proche du Soleil. À la vitesse de la lumière, il faut 4 ans pour y aller. Alors, quand je fais je peux vous faire la même démonstration que je fais à mes petits élèves, hein, vous allez voir. Vous claquez des doigts, la vitesse de la lumière, en claquant des doigts, vous êtes sur la Lune. En une seconde, vous avez fait 300 000 km. C'est ça, la vitesse de la lumière. Vous claquez des doigts, vous êtes sur la Lune. Pour aller vers le Soleil, il va falloir...
4 minutes, je crois.
10
minutes, je crois.
9. 4. Oui, 9 enfin, moi, je crois que le Soleil est à 9 minutes ouais. lumière, mais j'en suis pas vraiment sûr, mais bon... Alors, vous claquez des doigts pendant 9 minutes, vous arrivez au Soleil. Ensuite, vous avez envie de faire un gâteau pour votre maman, vous avez oublié le sucre, la farine ou je ne sais quoi. Vous allez sonner chez les voisins. Si vous êtes dans un immeuble, c'est la porte à côté. Si vous êtes dans une zone pavillonnaire, c'est le portail à côté. Vous voyez vos voisins, vous leur dites « J'ai un anniversaire à ma maman, j'aurais bien faire un gâteau, j'ai pas de sucre. » Les voisins vous prêtent du sucre. Voilà. Sur Terre, vous voulez aller chercher du sucre à Proxima du Centaure, il va falloir claquer des doigts pendant 4 ans. À chaque fois que vous claquez des doigts, alors on s'arrête pas, hein, on dort pas, on fait pas pipi, on mange pas, rien. On claque des doigts, hein, pendant 4 ans, et vous arrivez sur Pandora, justement. Hein. D'ailleurs, ils mettent dans Avatar, ils mettent 6 mois pour accélérer, ensuite ils voyagent pendant 4 ans, ils décélèrent pendant 6 mois, 5 ans de trajet. C'est la question de ça, on peut pas dire, il a bien respecté les choses, mais c'est à la vitesse de la lumière, hein, et on n'est pas prêt d'y aller. Ma foi, vous allez chercher... chez les voisins, vous mettez 4 ans comme ça, vous prenez le sucre, vous rentrez, enfin bon. Et il y a un de mes gamins un jour qui m'a dit, on pourrait peut-être téléphoner.
Ils sont très matérialistes, très pragmatiques. Hein. On va peut-être à peine de sortir pour aller à la porte à côté. On peut téléphoner. Oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir 4 ans aussi pour que la communication arrive. Hein. Et puis 4 ans aussi.
C'est pas terrible,
oui, il faut le téléphoner. Oui, oui. Non, mais c'est parce qu'il voulait faire venir le voisin, tu comprends. Hein. Donc, ça, c'est quand même le système solaire le plus proche de nous. Donc, c'est quand on dit qu'on a de la liberté. Mais c'est vrai que Avatar, pour ça, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Question de ça, c'était très bien vu. Quoi. Et Cameron a dit qu'il resterait sur Avatar, enfin sur Pandora, jusqu'à la fin de ses jours. Quelque part, je le comprends, parce que quand on a créé un monde pareil, on doit avoir du mal à essayer d'en sortir. Hein. Voilà, je pense qu'on est un petit peu tous comme ça. Quand moi, j'ai créé Outre-mer, le premier tome était ce qu'on appelle un one-shot. Je ne pensais pas écrire une suite. Il se trouve que j'ai eu la chance qu'il ait eu des prix littéraires. Donc, quand je suis retourné voir l'éditeur en disant que j'avais envie d'écrire une suite, j'avais un petit peu un tapis rouge, là. Et donc, il m'a dit oui, oui, oui. J'ai dit, mais à ce moment-là, j'aimerais bien en faire deux, parce que je voudrais développer ça sur un certain temps. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu une trilogie, en fait. Au départ, ce n'était pas prévu. Mais je me suis amusé à les emmener de plus en plus loin. C'est eux qui, à la fin, vont jusqu'à Andromède. Je me suis amusé à aller aux limites. Pour l'instant, je n'ai pas dépassé ces limites-là. Enfin, je me suis amusé quand même à passer dans un univers parallèle, dans un autre roman. Parce que ça permet aussi, on prend les chemins détournés. Mais moi, c'est ce qui m'amuse. Enfin, je m'amuse à faire ça. Et j'espère que les lecteurs sentent quelque part que l'auteur s'amuse aussi, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Faut qu'on joue ensemble. Hein. C'est le fameux effet de réalité dont parlait tout à l'heure Pierre. L'effet de réalité, c'est le fait qu'on est. En fait, tout part du pacte de lecture. Je commence toujours par ça. Le pacte de lecture, c'est le fait que vous êtes amateur de science-fiction, nous sommes écrivains de science-fiction. Quand vous allez ouvrir un livre de science-fiction, vous êtes d'accord pour qu'on vous raconte des conneries, si j'ose dire. Hein. Ce pacte-là, quelque part, il se crée naturellement. C'est exactement le même quand on va au théâtre et qu'on accepte que les personnes qui sont sur la scène incarnent des personnages et qu'on y croit, que c'est vraiment les personnages qui sont en train de nous faire vivre une tranche de leur vie sur la scène du théâtre. Là, c'est la même chose, c'est le pacte de lecture. Et à partir de ça, le pacte de lecture, il consiste à essayer de créer un effet de réalité de façon à ce que vous croyez à nos conneries, pour revenir à la même chose. C'est-à-dire que vous entriez dans le jeu et que vous soyez d'accord pour continuer à tourner les pages et à vous dire, quelque part, au fond de vous-même, j'y crois pas, mais j'aime ça.
Mais c'est ce que les Anglais appellent le suspension of disbelief. Suspension de l'incrédulité. Personne n'a jamais compris cette expression. Mais voilà, il faut que l'incrédulité du lecteur se suspende un moment pour qu'il croit l'univers qu'on est en train de mettre en place.
Mais après, il faut être extrêmement cohérent pour qu'il ait envie d'en ressortir.
Oui, par contre,
voilà, il ne faut pas lâcher.
Voilà. Oui. Mais il y a des gens qui n'aiment pas lire de la littérature de l'imaginaire pour cette raison-là, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans ce pacte de lecture. Et moi, personnellement, je ne lis pas de polar, je n'aime pas ça, j'aime pas tout ce qui est policier, parce que vous avez un mort au début, vous avez un flic qui a perdu sa femme, qui a perdu ses gosses, ou je sais pas quoi. Et puis, il arrive plein de trucs, et à la fin, on trouve qui est l'assassin. Ben moi, ça m'intéresse pas, ce genre de choses. Alors donc...
Il y a longtemps qu'il y a eu des policiers.
Justement, j'ai pas aimé le début, j'ai jamais vraiment insisté. Il y a tellement de livres de science-fiction passionnants à lire que je préfère lire de l'imaginaire, quoi. Science-fiction ou autre chose, mais dans l'imaginaire. J'avoue mes limites.
L'imaginaire est démoli par des gens comme Roland Lehoucq, qui fait ça avec beaucoup d'humour, qui est un astrophysicien, surtout Utopia, mais il est président maintenant, et où il dit ok, on peut rêver, il adore partir dans les univers imaginaires des auteurs, mais après il y a un principe de réalité qui se met en place, et là il démolit tout systématiquement. Des vaisseaux font emmener des quantités de nourriture invraisemblables, des quantités d'eau invraisemblables, ça veut dire un poids invraisemblable, ça veut dire une extraction extrêmement dure, il faut un carburant de folie, etc., etc. Et tout est démoli en permanence parce que c'est infaisable, enfin, pour l'instant c'est même pas imaginable, quoi. Donc effectivement, quand tu dis qu'on a toute liberté, on a encore énormément de liberté et qu'on sera mort, je pense qu'il y a encore de la liberté pour les auteurs qui viendront derrière nous. Parce que on est loin, 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 loin. Déjà pour Mars, ça va être très compliqué. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent surtout et tout ça. Et que est-ce que c'est la priorité humaine? À un moment, c'était la priorité de montrer qu'on est le plus fort en allant sur la Lune. Peut-être que ce que les Chinois vont faire bientôt. Après, il y a des priorités qui se mettent en place, qui sont des budgets tout simplement. Et les budgets, ils ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, on est loin, très très loin de sortir du système solaire.
Moi, tu es en train de nous plomber là.
Oui, non, mais je veux dire, c'est pour ça que je veux dire qu'on a toute notre place. Oui. Les auteurs d'imaginaire ont toute leur place. C'est pas l'invention, la découverte d'exoplanètes dont effectivement on ne sait pas grand-chose, qui va changer quoi que ce soit, parce qu'on n'ira jamais. Et nous, on peut y aller. Nous, on a le droit d'y aller.
Nous, on sait ce qui a commencé dessus.
Ouais. Et ça, c'est le privilège de l'auteur. Et d'ailleurs, beaucoup de scientifiques envient les auteurs de SF. Ils lisent beaucoup de SF parce que il n'y a pas de limite. Mais un scientifique pur et dur, il va être limité par son budget de recherche, tout simplement. Et donc, ça va le plomber dans ses rêves, ses propres rêves. Et c'est les auteurs de science-fiction qui, eux, ne sont limités par rien, à moins qu'un jour on décide de faire payer chaque mot du dictionnaire. Pour l'instant, on est plombé par rien du tout et on peut décrire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, tout en précisant ce que je disais tout à l'heure, qu'on doit respecter, à mon avis, pour garder crédible, les lois universellement connues.
Eh bien, là, ça me fait me poser des questions, parce que là, je me dis, c'est peut-être pas un hasard si Roland Le Houx nous fait des rêves, des discours absolument passionnants en s'appuyant sur l'imaginaire, mais il n'en écrit pas. Moi, je suis informaticienne. Je suis incapable de construire un récit dont le cœur, le centre, soit ce que je connais le mieux, c'est-à-dire une intelligence artificielle, des robots, des... Les auteurs de science-fiction qui n'ont pas la formation que j'ai, moi, enfin, l'approche professionnelle, ont beaucoup plus de liberté, d'imagination et de capacité à créer dans un domaine qu'ils maîtrisent moins bien que moi. Moi, mon réalisme me coupe les ailes. Quand, imaginez une intelligence artificielle qui est consciente d'elle-même, je suis incapable de le faire, je ne peux pas y croire.
J'ai le même problème avec
l'espace. Par contre, le space opéra, je suis parfaitement à l'aise. Pas de souci, je ne suis ni biologiste, ni astrophysicienne. Mon imagination s'envole.
Alors, je trouve très intéressant le fait d'avoir parlé d'Avatar, pour revenir sur mon propos juste avant, parce que, justement, dans Avatar, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, il y a un travail, d'ailleurs, Roland l'a souligné, un travail énorme de recherche du réalisme, mais par contre, il y a ces fichues montagnes flottantes.
C'est ça qui est génial, c'est la particularité de cette planète, c'est que ça ne devrait pas être très ça.
Voilà, c'est et donc génial, c'était un peu le propos, enfin l'objet de mon propos tout à l'heure, c'est de dire, est-ce que ça vous arrive, est-ce que ça vous amuse, ou est-ce que ça vous embête de bousculer les lois de temps en temps, parce que vous en avez besoin, ou parce que vous en avez envie ? Non, tu peux dire non.
J'ai déjà beaucoup parlé.
Il y a aussi un aspect qui est intéressant, au-delà de l'aspect scientifique, c'est l'aspect esthétique ou l'aspect poétique des choses. Et à un moment, on a besoin de poésie, et donc on va outrepasser ou transcender les limites scientifiques parce qu'on a besoin de cet univers à ce moment-là et que c'est beau. Et que si ça ne rentre pas en collision avec les lois scientifiques dont on parlait tout à l'heure, les basiques, eh ben on a le droit. On a le droit de faire de la poésie, et Cameron a le droit de mettre des îles flottantes parce qu'on n'a peut-être pas d'explication scientifique là-dessus, mais c'est beau.
Ça, c'est...
Voilà. Et donc, d'un seul coup, on est émerveillé, on est comme des gamins devant ces montagnes flottantes, et puis en même temps, c'est toute l'initiation des créatures extraterrestres qui se fait là, etc. Donc, il y a un objet poétique et évolutif et ethnologique, je dirais, qui est super intéressant, et qui, après, on s'en fout, quoi. On s'en fout que ça tienne pas la route. Moi, je trouve qu'à partir du moment où c'est beau, c'est ravissant. Au sens du ravissement.
Ben, moi, Avatar, j'adore ce film, mais pas du tout pour les raisons que tu viens de citer. C'est-à-dire les montagnes qui volent, ça me fait ni chaud ni froid, même si c'est sympathique, et puis qu'il y a des dragons, et que j'aime bien les dragons. Par contre, il y a un truc que je trouve extraordinaire dans Avatar, et qui, pour moi, marche du point de vue de la cohérence scientifique. Parce que un humain qui va sur une autre planète, l'atmosphère n'est pas la même, l'environnement, il n'est pas du tout évident qu'il puisse y survivre. Et ce qui est très intelligent dans Avatar, je trouve, c'est que les humains qui arrivent, ils sont dans leur scaphandre, enfin, ils sont complètement harnachés. ils ne peuvent pas vivre sur cette planète littéralement. Apparemment, ils consomment de la nourriture terrestre. Ils vivent complètement enclavés. Ils ne peuvent même pas sortir à l'air libre. Et ce qui est très intelligent dans cette histoire, c'est l'idée d'aller emprunter un corps à des créatures autochtones qui, elles, sont adaptées à l'environnement. Et en même temps, apparemment, ils récupèrent... Alors, je ne sais pas si j'ai pas fait assez attention ou si j'ai oublié. Comment est-ce qu'il... Ah oui, il apprend la langue pendant tout le voyage aller. Parce qu'il y a aussi un problème de communication au-delà de l'aspect survie sur une planète différente. Donc, je crois qu'il me semble me souvenir dans Avatar... Dites-moi si je me trompe, comment est-ce qu'il fait pour apprendre à dialoguer avec les autochtones et parler couramment leur langue ?
Sur Internet.
Et du coup, en fait, c'est déjà les scientifiques sur place qui avaient créé une école pour les autochtones et qui leur ont appris leur langue. Et du coup, c'est à partir de ça que Jack Sully, le héros, il est avec la princesse Naitiri, c'est elle qui lui apprend.
Mais
c'est
son il l'apprend facilement et vite quand même.
Oui.
C'est le jumeau qui est décédé qui lui
oui, c'est
justement
son qui aurait dû faire le voyage
avait la maîtrise de la langue.
C'était lui qui était bien préparé. Ceci dit, dans les premiers moments de ses interactions, il a un peu de mal à discuter de manière fluide, mais visiblement ça s'arrange très vite. Bon, on est tous obligés de faire ça. Hein. Il y a énormément de récits où on arrive sur une planète. Où évidemment le langage, la communication est impossible, et puis hop, 15 jours à discuter, et on parle couramment, et tout le monde oublie que c'est pas la
même. Ça, c'est vraiment un problème, le langage.
C'est alors, justement, là, c'est ça dont j'aimerais qu'on parle maintenant, si ça vous dérange pas. Donc, parler. On a parlé de la planète, on a parlé, un petit peu de la planète en termes de concret, de physique, du sol, de l'air, des montagnes qui flottent ou pas, etc. Maintenant, ces planètes, vous les avez peuplées. Alors, soit peuplées par des autochtones, soit peuplées par des arrivants qui peuvent effectivement avoir des difficultés à s'adapter. Comment faites-vous ça ? Comment est-ce que vous... Enfin, à quoi vous intéressez ? Alors, j'ai bien compris, certainement, encore une fois, pour l'intérêt du récit et vu par les yeux de vos héros, mais comment vous créez, en gros, ces peuples ? Qui ont des habitudes, qui ont des langues, qui ont des formes éventuellement différentes.
Moi, ce sont des colons terriens. Alors, donc, en fait, ils partent de la Terre. Dans les oubliés de Vulcain, il y a 30 mondes. Dans les abîmes d'outre-mer, il y en a 100. Enfin, bon, c'est l'humanité qui se répand, en fait. Hein. Ils rencontrent des extraterrestres vraiment tout au bout de mes histoires. Une seule fois, d'ailleurs. Et moi, ce sont des colons terriens. Mais à partir de là, il y a aussi l'adaptation des différentes colonies aux différents mondes sur lesquels ils se sont installés, y compris les oubliés, les exclus, comme dans les oubliés de Vulcain, qui sont des terriens qui fuient la Terre, comme des sortes de migrants de l'espace. Moi, je m'étais inspiré des Boat People à l'époque. Mais c'est triste de voir que ça, c'est quand même un bouquin qui est sorti en 95 et qu'on est toujours dans les mêmes problématiques. Mais ce sont des humains qui se sont adaptés sur des planètes qui sont vraiment similaires à la Terre. Même s'il y a de l'eau, de la glace ou des forêts ou je ne sais pas quoi, mais ce sont des planètes sur lesquelles ils vivent en tant qu'humains normaux. Mais des vrais extraterrestres
Ça me paraît compliqué de... J'ai pas trop abordé le problème extraterrestre, qu'on ne devrait pas dire extraterrestre, parce que dès qu'on est sur la Lune, on est extraterrestre. Donc, disons des aliens autres, c'est carré, tout le monde est alien de l'un ou de l'autre. Donc j'ai inventé un nouveau mot qui s'appelle ENA, espèce ni humaine ni animale, et qui, pour décrire ces mondes-là, il faudrait parler une autre langue que la nôtre, parce que déjà parler d'extraterrestres avec notre propre langue, faire parler des extraterrestres avec notre propre langue, c'est déjà une hérésie quasiment. On ne peut parler qu'à des humains finalement. C'est bien démontré dans le film de Villeneuve, La Premier Contact, cette espèce de langage qu'il faut essayer d'apprivoiser, qui est totalement différent du nôtre. Bon, même si la fin du film est un peu déçue, mais je vois pas comment je pourrais moi. C'est comme le groupe Magma, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Magma, qui a créé une langue qui s'appelle le cobayen. Voilà. Ils sont les seuls à détenir les clés du cobayen, pour comprendre le cobayen. Personne d'autre ne comprend. Et ça va être la même chose pour un langage extraterrestre. Quand on rencontre des extraterrestres, on ne devrait jamais comprendre. Ou alors, il faudrait vraiment beaucoup de temps passer avec eux pour comprendre. Donc, moi, je suis comme Daniel, je suis un humain qui parle aux humains de problèmes humains. Et donc, la colonisation d'une planète est l'occasion pour des humains de se confronter à des situations extrêmes ou pas, et les obliger à évoluer, peut-être à réfléchir différemment, à créer de nouvelles civilisations, en fonction du climat, en fonction de la gravité, en fonction de tout ce qui se passe sur le monde. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la réaction humaine face à un monde nouveau. Pour l'extraterrestre, je verrai plus tard.
Ah ben voilà, je suis super fière. Parce que j'ai essayé d'inventer des extraterrestres complètement différents des humains. Et j'ai raconté une histoire avec des extraterrestres, un extraterrestre purement minéral. Et c'était un vrai challenge parce que je racontais une histoire de rencontre avec des explorateurs humains sur la créature qui était sur la planète, s'appelle Sable, et comme son nom l'indique, c'est un gros tas de sable. Et Sable subit tout un tas d'expériences que lui font vivre les êtres humains. Et effectivement, ce que disait Pierre, on ne peut pas parler d'une expérience non humaine avec le langage humain. Donc déjà au départ, c'est un challenge. Et moi, je l'ai résolu en adoptant un point de vue très centré sur l'expérience de ça, de la créature, et de ce qu'il pouvait comprendre et percevoir, de ce qu'il voyait, de ce qu'il ressentait, de ce qui lui arrivait physiquement, sans essayer de prendre du recul, sans essayer de parler d'une civilisation. Il a bien quelques souvenirs à propos des interactions avec ses voisins, mais si on a un point de vue très localisé, très centré sur quelque chose de précis, on arrive à faire des choses intéressantes comme expérience de pensée. Et j'ai une planète où les humains n'ont pas trop d'efforts à faire pour s'acclimater à la planète, puisque Chaya et ses habitants, c'est une planète qui a besoin d'avoir des visiteurs extraterrestres pour son propre cycle de vie et qui les aide à se sentir bien pendant leur séjour sur la planète qui ne peut pas durer très longtemps. Et c'est la planète finalement qui résout tout un tas de problèmes un peu plus, qui viennent en deuxième après les problèmes immédiats de survie. Il faut pouvoir respirer, il faut pouvoir ne pas être broyé par la gravité, il faut avoir des températures supportables. Après, il y a un deuxième niveau de problème qui se pose, c'est faut trouver des choses comestibles. J'ai écrit deux nouvelles rien que sur le problème, sur la question de comment on fait pour se nourrir quand on est dans un autre environnement. Parce que pour le système digestif humain, il y a quand même pas tant de choses qu'on peut digérer. On a quand même besoin de choses assez sophistiquées, des acides aminés, des molécules complexes. Si, même en étant sur Terre, si on se nourrit de salade, par exemple, eh bien on assimile absolument rien qui soit nutritif. Donc la cellulose, qui a des trucs assez simples à faire, ça ne suffirait pas à garantir notre survie si on avait la chance de trouver de la cellulose ailleurs. Mais donc, il fallait dans mon récit que la planète fasse des efforts pour accueillir ses visiteurs. Et elle le fait en s'acclimatant aux visiteurs et en se transformant règne végétal, règne animal, et même les habitants les plus sophistiqués, tout le monde s'adapte aux visiteurs. Et c'est rigolo de transformer le problème de l'adaptation en le prenant sous un autre angle.
Donc là, on revient sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel on a glissé, qui était: est-ce que la planète peut être un personnage en elle-même? Donc là, c'est intéressant.
La planète est tout ce qui vit dessus.
Oui, voilà. Alors, maintenant, puisque on vous a expliqué que les extraterrestres, effectivement, c'était, bon, à part toi, c'était pas trop votre tasse de thé, donc c'est des humains qui viennent sur vos planètes. Donc, est-ce que le fait d'avoir ces planètes, cette liberté, on va dire, vous a permis, ou est-ce que vous avez donné l'envie, ou est-ce que vous aviez l'envie avant, de créer des systèmes politiques différents, des coutumes différentes, chez des gens comme Jacques Vance adorait créer des mondes différents, avec des gens qui pensaient, qui vivaient différemment, et vous?
inventer des systèmes politiques différents.
En littérature jeunesse, c'est difficile de vouloir vraiment partir trop sur la politique, etc. Mais elle est là, il y a des choses qui sont présentes.
Mais au-delà de la politique, ça peut être simplement des coutumes, ça peut être des manières de vivre, des croyances, plein de choses.
Après, toi, les croyances, toi, tu t'es
éclaté. Bah oui, c'est
pour ça. C'est-à-dire que quand vous avez une population qui se rend sur une autre planète, colonise une autre planète, il va importer ses propres croyances, souvent. Et si c'est des Chinois qui y vont, ce ne sera pas la même croyance que si c'est des Américains, ou des Européens, ou des Indiens. Et donc, ce qui me paraît intéressant à ce moment-là, c'est de transformer les croyances par le fait de coloniser une nouvelle planète. Que le nouveau climat, la nouvelle gravité, toutes ces nouveautés, ou alors trop d'oxygène ou pas assez d'oxygène, va peut-être engendrer des nouvelles formes de croyances, de nouvelles mythologies. Et effectivement, par exemple pour Kéron, qui se passe 1000 ans après l'arrivée du vaisseau d'Absalon sur la nouvelle Terre, les mythologies sont créées sur les passagers du vaisseau qui sont arrivés. Donc voilà, les gens ont porté leurs propres croyances. Ça m'intéresse toujours de parler de ça parce que le système religieux est un des premiers à se mettre en place, je pense, pour donner du sens à ce qu'on fait, enfin, ou essayer de donner du sens à ce qu'on fait. Et ça, c'est des mécanismes, j'ai l'impression que c'est des mécanismes qui se répètent aussi. Et qu'on. C'est difficile de. D'ailleurs, dans l'espèce opéra, c'est difficile de remettre des systèmes politiques très très nouveaux, parce que souvent l'espèce opéra, bizarrement, et comme la fantasy, donne des systèmes très hiérarchisés qui reproduisent. Regardez Dune, c'est un empereur, c'est duc, c'est baron, etc. Donc c'est des systèmes presque médiévaux qui se passent sur de nouvelles planètes. Hein. Donc, comme si on était obligé comme on va loin dans l'espace, de revenir aux archétypes type fantasy pour se raccrocher à quelque chose de connu. Et c'est pour ça que j'assimile beaucoup l'espèce opéra à la fantasy, parce que pour moi, Dune, et là je me suis fait engueuler par Laurence une fois, mais bon, c'est pas grave, je persiste et je signe, est autant un livre de fantasy qu'un livre de science-fiction. Même s'il y a une étude très pointue sur l'écologie, tout le système médiéval, tous les archétypes, le héros qui se transforme par une initiation dans le désert, etc., ce sont quand même des critères de fonctionnement de fantasy. Et donc, c'est extrêmement difficile de songer à un système politique complètement différent. Parce que si on n'a pas vaincu, même en tant que nouveau pionnier, regardez les Américains comme ça aux États-Unis, ils ont simplement reproduit à une nouvelle échelle ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire les mêmes injustices, le même système de fonctionnement, même système de gouvernement, même forme de violence, tout est venu avec les colons, et je ne vois pas pourquoi, si les gens des terriens allaient sur une autre planète, ils importeraient pas leur propre dysfonctionnement, et donc ils vont se transcrire d'une façon ou d'une autre sur cette nouvelle planète.
Ben, c'est exactement pour ça que je... Ah, il y a une question. Je réponds avant ou après
c'est pas clair. Pour réagir par rapport aux Américains, en fait, parce que quand ils se sont installés, quand ils ont choisi leur système, ils ont quand même pris les systèmes les plus avancés. Ils n'ont pas pris la royauté, alors que la royauté était encore présente quand ils se sont implantés aux États-Unis.
Si, c'était une monarchie au départ, c'était l'Angleterre.
Oui, mais quand ils se sont libérés de ce système, de ce qu'il y avait avant eux, ils ont quand même pris ils ont choisi de prendre la démocratie, ils ont quand même choisi un autre système que le système qui était le plus présent à l'époque où ils se sont libérés.
Ouais, ils ont fait la guerre. Est-ce que le fait d'avoir choisi la démocratie a empêché le pays de sombrer dans un certain nombre d'erreurs qui sont communes? La France aussi avait choisi normalement la démocratie. Et est-ce que cette société était juste et harmonieuse, et c'est une société qui se construit beaucoup sur le Colt et la Bible quand même, et que donc les westerns, les fameux westerns, que j'adore personnellement. Donc est-ce qu'on s'est débarrassé des conditionnements de fonctionnement avant? Parce qu'il y avait un truc dans la Pennsylvanie, par exemple, avec Arthur Penn, c'est un cinéaste, mais Penn qui a créé la Pennsylvanie, il a essayé d'associer les Indiens au gouvernement, et c'est une forme d'utopie. Ça n'a pas résisté longtemps, parce que souvent c'était des gens qui étaient bannis de leur propre pays pour des raisons religieuses, souvent, comme les premiers pilgrims. Mais la société américaine a reproduit après toutes les formes de violence. Je ne parle pas du système du gouvernement, parce que pour moi ça n'a rien à voir, quoi. Mais toutes les formes de violence existantes déjà en Europe, ça n'a rien changé, le fait de changer de continent, qui, à bien des égards, était l'équivalent pour eux de changer de planète. Parce que c'était un voyage dont on ne revenait pas pratiquement, quoi. C'est une immigration un peu définitive, mais ça n'a pas, à part quelques tentatives utopiques, ça n'a pas donné une nouvelle forme de civilisation foncièrement plus égale, plus harmonieuse que la nôtre. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, c'est
Enfin, le système de gouvernement, c'est pas vraiment important, je pense.
Oui, moi je voulais dire que ça fait partie des choses qui sont intéressantes quand on se donne la liberté d'imaginer des extraterrestres. On ne va pas forcément inventer des systèmes politiques différents, mais on s'aperçoit très vite que si la biologie est différente, tout ce qui est social et tout ce qui est moral est forcément différent. Sans raconter ce qu'il y a dans mes histoires, imaginez que la reproduction se fasse d'une manière un tout petit peu différente, par exemple, et que les gènes des enfants soient d'autant plus solides et en bon état que les gènes des parents, si les parents avaient des gènes très similaires, eh bien on aurait une société qui se construirait sur des principes complètement différents. S'il fallait que les parents aient des gènes très semblables, on encouragerait l'inceste, par exemple. Ce serait une excellente chose. Et puis, par contre, on serait très réprobateur vis-à-vis du mélange avec des gènes étrangers. Dès que la biologie est différente, oui, ça va conditionner tout le reste. Et c'est une manière de réfléchir à la politique, parce que pour moi, la politique, c'est une manière d'exprimer comment on construit notre échelle de valeurs, ce qu'on juge important. Soit ce sera la liberté d'entreprendre et d'agir, paf, libéralisme, on est à droite, soit c'est solidarité, entraide, partage, fraternité, on est plutôt à gauche, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi la politique c'est ça, c'est une certaine manière de hiérarchiser les valeurs. Et les valeurs, ce n'est pas des trucs universels et inaltérables, comme on aimerait bien, comme on a tendance à le penser souvent. Et la science-fiction aide à se rappeler que les échelles de valeurs, c'est situé, variable, et que c'est pas tout contrôle et c'est pas des évidences. J'ai pas bu assez de café, je bafouille. Et voilà, donc il suffit de changer des petits trucs dans l'ordre social, et sans qu'on ait besoin nécessairement de dresser tout un tableau politique, on sent qu'ils s'engagent sur des bases différentes.
D'accord. Bon, je pense que les mécanismes sont toujours là, c'est ça le problème. Je pense que tant qu'on n'a pas affronté nos propres monstres à nous, intérieurs, on aura beaucoup de mal à créer des systèmes différents, parce qu'ils sont nos reflets finalement, et que la pensée crée du temps, comme disait Christian Lanty, et que nous sommes prisonniers d'un temps psychologique qui nous conduit à reproduire toujours les mêmes erreurs. Regardez, depuis l'Antiquité, nombre de massacres, de guerres, et on n'a tenu compte d'aucune leçon de l'histoire. On n'a retenu qu'une leçon de l'histoire, et on reproduit les mêmes erreurs. Et vous voyez ce qui arrive là maintenant, on sent que 39-45 est complètement oublié, parce qu'on a un retour au nationalisme pur et dur, à la frontière, au mur, qui sont pour moi des défaites humaines, et qui devrait nous pousser à réfléchir sur qui nous sommes vraiment, qu'est-ce que nous voulons vraiment, est-ce que cette peur qui est sans arrêt engendrée. Alors, je pense que, par exemple, il va y avoir, si vous arrivez sur une planète nouvelle, vous allez avoir des réflexes de peur qui vont vous agréger les uns aux autres, et peut-être vous situer sur le commandement d'un chef qui va prendre les commandements, etc. Et donc, vous allez reproduire un système, et tout est basé sur cette espèce de peur qu'on reproduit en permanence. Et si on emmène notre peur dans l'espace, eh ben, notre peur, nous fera, à mon avis, commettre la même bêtise. Pardon.
Alors, je suis désolé, le temps passe, je sais si vous avez remarqué.
C'est son boulot.
C'est son boulot, il ne fait que ça. Et donc, il nous reste encore un petit peu de temps. J'aurais encore une dernière question à poser avant de vous laisser, après vous, le loisir d'interroger les auteurs. Je pense que j'ai une partie de la réponse, mais je vais quand même vous poser la question. Vous avez créé des mondes, vous avez créé des planètes, vous avez créé des zones de vie, des modes de vie, des choses. Est-ce que c'est facile de les quitter? C'est-à-dire, est-ce que ça vous fait quelque chose lorsque vous fermez votre fichier ou vous posez votre stylo ou vous dites, voilà, ça y est, j'ai fini mon histoire, ouais, ce monde-là, il est parti. Alors, je pense que j'ai une partie de la réponse avec le fait que... il y a des suites. Mmh. Ah, voilà, vous avez tous fait des suites.
Non.
Pas toi, mais... Et donc voilà, donc je vous pose la question. Est-ce que c'est facile de les quitter? Est-ce qu'on a envie d'y revenir? Est-ce qu'on a envie d'avoir d'autres aventures dans ces lieux-là ou pas? Allez-y.
Oui, c'est tentant d'y retourner, mais en fait, quelque part, c'est comme quand on a déménagé et qu'on regrette un peu la maison où on était, mais qu'on apprécie beaucoup celle où on vient d'arriver, parce qu'on est dans un autre décor, où on a d'autres voisins, et puis là, on prend un autre bouquin. Si vraiment c'est la planète qui nous manque, on en crée une autre, hein, on est libre. Hein, mis à part pour Outre-mer, où j'ai eu la sensation que je n'avais pas vraiment assez développé le relationnel entre les abîmes et les humains, j'ai eu envie de continuer dans cette direction-là, mais ce n'était pas la planète en elle-même que je n'arrivais pas à quitter, c'était ses habitants et ses entités qui étaient dessus. Mais sinon, non, moi j'avance. Je fais comme mes colons, hein. Je vais de plus en plus loin. J'ai un ami astronome qui s'est amusé à recenser toutes mes planètes sur le modèle d'un t-shirt qui existait avec un métro galactique. Il a fait le métro personnel galactique Martinigole. Et alors j'aurais dû le mettre aujourd'hui, c'était le jour ou jamais, j'y ai pas pensé. Mais je couvre pratiquement toute la galaxie de la Voie lactée jusqu'au nuage de Magellan Andromède. Et ça tourne un peu. Outre-mer, par exemple, c'est exactement à l'opposé sur le disque de la Voie lactée de la Terre. Donc il faut passer par le centre galactique pour y aller. Et donc, oui, je me suis ancrée quand même dans une réalité de la galaxie en situant mes planètes autour d'étoiles pratiquement toujours existantes. Donc c'est pour ça qu'un astronome a pu aller placer mes planètes autour de ces étoiles-là. Mais non, j'avance. Je suis une sorte de colon, moi aussi, en avançant de plus en plus. C'est ce qui m'intéresse aussi. Je ne renie absolument pas tous les mondes que j'ai créés, mais j'ai envie d'aller voir ailleurs.
Pour moi, j'essaie déjà de paumer les astronomes. J'y arrive très bien parce qu'il y a plein de planètes ou d'étoiles qui n'existent pas du tout. Je n'ai jamais de regret de quitter un monde. Ce que je peux avoir comme regret, c'est de quitter des personnages. Oui. Parce que je me suis attaché émotionnellement à certains personnages. Et il y a une sorte de déchirement de les laisser. Mais je pense que quand le mot fin arrive, c'est qu'on a senti que c'était justement la fin et que ça ne sert à rien d'insister. Parce que je pense qu'il faut laisser une part d'imaginaire au lecteur derrière. Je pense que ça sert à rien de s'éterniser sur un monde quand on sent qu'on a fini d'être dans ce monde-là et qu'on n'a pas épuisé, parce que c'est inépuisable, mais qu'on a bouclé le livre à ce moment-là, et c'est la fin. Le Régal du silence, j'ai fait tome 3. Tome 3, j'ai tué mes personnages quand tout le monde est mort. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas lu. Mais enfin, on finit tous par mourir. Hein, donc, c'est des légendes et tout ça. Et bien, les lecteurs me disaient, vous faites quand un tome 4 ? C'est probablement les lecteurs qui sont plus attachés au monde que l'on décrit. L'impression que quand ils se placent dans un monde, ils ont envie d'y revenir. Quoi. Et je dis, ils sont finis, c'est fini. Quoi. C'est pas juste et tout. Mais si, regardez, il y a une vraie fin. Quoi. Mais les gens, certains lecteurs.
C'est inhérent à la nature humaine. Les enfants, ils aiment qu'on leur raconte 25 fois le même conte. Ouais. Les jeunes lecteurs, moi, j'en ai quelques fois qui m'ont dit. Il y en a un qui m'a dit un jour avec beaucoup de rage, vous savez, il m'a dit, je l'ai lu jusqu'au bout. Alors je lui ai dit, oh là, c'est un reproche. Il me dit, non, mais je l'ai lu jusqu'au bout. Je lui ai dit, toi, tu fais partie de ceux qui étaient absolument convaincus qu'il n'irait jamais un roman. Bah oui, il me dit. Il me dit, je l'ai déjà lu 3 fois. Alors je lui dis, il faut peut-être passer à autre chose. Non, c'est celui-là que j'ai envie de lire. Et donc, c'est un grand plaisir, quoi, parce qu'on se dit, le lecteur, il est, comme tu dis, il est dans la. Il avance comme un bateau sur son air, au-delà du roman, il continue encore à vivre avec lui, le monde, les personnages.
Je suis comme Daniel, une fois que j'ai fini, j'ai envie de découvrir autre chose. D'ailleurs, quand je suis dans l'espace, je fais un space opéra, j'ai envie de revenir sur Terre, parce que j'ai le mal de Terre. Et quand je suis sur Terre, j'ai plus qu'une envie, c'est de retourner dans l'espace. Quand j'alterne souvent entre space opéra et anticipation.
Moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je viens de terminer le 4e tome des Aventures à Guédelon. Ça fait 2 ans que je suis au 13e siècle. J'en ai marre. Hein. Je veux dire, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre un vaisseau spatial, de sauter dans l'hyperespace. Et là, je vais aller au-delà d'Andromède, je crois, ce coup-là, carrément. Hein, parce que j'ai vraiment envie de prendre l'air. Hein. J'ai adoré ce que j'ai fait. Parce que le voyage dans le temps, c'est aussi quelque chose de passionnant. je me suis colté avec le problème du langage, là, en plus. C'était pas le langage extraterrestre, c'était le fait que je ne voulais absolument pas que des gamins du XXIe siècle débarquent en 1250 et disent « Eh, diva !» Non, ça, il n'y avait rien à faire. Donc, je me suis vraiment attachée à ça, au problème. Là, je ne l'ai jamais fait avec les extraterrestres, mais là, avec mes petits Français de 1250, ce n'était pas facile. Mais bon, c'est bien, j'ai adoré faire ça, je suis très contente, mais j'ai envie vraiment de reprendre le large. Avec
l'appel des
grands espaces. Grands espaces.
Moi, comme lectrice, je ne suis pas fan des cycles, des trucs qui durent sur des bouquins et des bouquins. Ça m'arrive de relire un livre que j'ai adoré, quelquefois des années après, pour le plaisir, mais s'il y a une suite, 10 volumes derrière, je ne vais pas forcément avoir envie de les lire. Donc comme auteur, c'est pareil, je n'ai jamais envie de reprendre, ce serait vraiment très exceptionnel, de reprendre un cadre que j'ai construit. C'est tellement plus... J'aime la science-fiction parce qu'à chaque fois, on fait une nouvelle découverte, parce que il y a toujours de la surprise, de l'invention, de l'imaginaire sous une forme qu'on n'avait pas envisagée avant. Si c'est pour y retrouver des trucs que je connais par cœur, je vois plus l'intérêt. Donc comme auteur, c'est pareil. Moi, mon plaisir, c'est de me lancer dans quelque chose de nouveau, forcément.
C'est chouette d'ailleurs de partir sur une nouvelle aventure. Ce qui va se passer. Déjà pour le vaisseau, comment il va être le vaisseau, hyperespace, trou noir.
Alors eux, ils savent qu'ils sont des auteurs, ils sont hyper expérimentés, ils en ont fait des tonnes. Ils n'ont pas l'angoisse que j'ai moi. Mais moi, je ne suis jamais sûre que je vais pouvoir en écrire une autre nouvelle. Vous, je ne pense pas que vous connaissiez cette angoisse-là.
Si, on a tout.
Moi, j'ai l'angoisse de l'éditeur qui appelle en me disant que je suis en retard. C'est ma principale angoisse, en fait.
Si, on est toujours un peu inquiet. On ne peut pas dire qu'on... Il y a des jours où... je me dis, ça vaut rien. Bon,
toi aussi.
Et puis, oui.
D'ailleurs, ça vaut rien, Daniel.
Oui. C'est ça. Je le dis moi-même. Oui. Et alors là, c'est mon mari qui en prend plein la tête. Parce que je lui dis, c'est nul ce que j'ai fait, etc. Et alors, il dit, mais non. Il me dit, mais non, c'est bien, sauf qu'il ne les lit pas. Il lit pas mes livres parce qu'il dit qu'il en entend tellement parler qu'il n'a plus envie de les lire. Alors donc, je lui dis non, mais c'est comme je l'ai écrit. Mais il me dit, mais ça, c'est pas un problème, tu sais écrire quand même. Alors donc, il me dit non, mais il me dit, ça va, continue, vas-y, etc. Et bon, c'est bien, il pousse.
C'est exactement comme ma femme était de ce monde, c'est exactement la même chose. Des fois, je suis complètement découragé, le bouquin, j'allais la voir, je disais, moi, j'y arrive pas, ce bouquin, c'est vraiment de la merde, et puis j'en ai marre, tout. Donc, tu as raison, remonte dans ton bureau et travaille. Ok, d'accord. Et voilà, j'étais remonté pour la fin du bouquin.
Moi, je me souviens quand j'étais en train de créer Les Abîmes d'Outre-mer. Bon, là aussi, je vais spoiler l'histoire, mais je racontais. On avait un long voyage à faire. Il conduisait pas à l'époque, c'est moi qui conduisais, et j'avais peur de m'endormir au volant. Et je lui ai dit, parle-moi pour que je reste réveillée. Il m'a dit, non, on va faire l'inverse. C'est toi qui vas parler, comme ça, je saurai que tu dors pas. Donc, j'ai commencé à raconter une histoire. J'étais partie complètement. Et puis tout d'un coup, alors lui, il dormait. Et alors, il se réveille à un moment donné, il me dit, mais ça mange quoi un abîme? Alors, je dis, oh, tu fais si, enfin bon, écoute, je sais pas ce que ça mange. Il dit, l'énergie du soleil. Ben, il me dit, ça suffit, hop, il s'est rendormi. Et l'abîme, c'est ça, quoi. Alors donc, mais voilà, comme de temps en temps, ma fille, tout au début que j'écrivais mes romans au livre de poche, ma fille était ma première lectrice, elle avait l'âge d'être potentiellement mes lecteurs, elle avait 12, 13, 14 ans, et elle lisait de temps en temps quand même les trucs qui à l'époque sortaient de l'imprimante à aiguille, et elle arrachait les chapitres, et elle me disait, ça c'est pas bien ça, ça m'a pas plu, bon, je me disais, et il y a certains chapitres, elle disait, ça tu changes pas, hein. Ça tu changes pas. Il y a un des chapitres des Oubliés de Vulcain, elle m'a dit ça, je ne veux pas que tu changes une ligne à ce chapitre là parce que ça j'aime bien, c'est exactement comme ça que réagirait un ado, etc. Bon, c'est encourageant. Je pense quand même que quelque part, quand on a un peu de bouteille comme on en a tous les trois, on est capable tout seul de se rendre compte si ce qu'on fait c'est bon ou pas, mais il y a toujours des doutes. Il y a toujours un moment donné où on se dit Bon, d'accord, ça me plaît.
Je ne pensais pas au doute sur ce qu'on est en train d'écrire, je pensais juste au doute sur la capacité qu'on aura à en écrire une de plus, à en inventer une nouvelle.
Oui.
Ouais, c'est ça qui nous fait la trouille.
La feuille blanche.
Ouais. 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 Ouais.
Moi, je n'ai pas trop peur de ça. Moi non plus. J'ai peur du temps qui passe.
Moi aussi.
Et alors, justement, le temps passant, je propose de vous
Quelle
donner la parole.
Voilà,
merci pour la transition. Et donc, à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos auteurs? Allez-y.
Je pense que là, c'est peut-être plus une question qui s'adresse à vous, Pierre, mais peut-être aussi à vous. Quand on crée, je parlais forcément du carré du silence, puisque c'est ce que j'ai lu, est-ce qu'il y a une vraie différence quand on crée une ou plusieurs planètes, une ou plusieurs univers, ou une multitude d'univers comme on peut voir effectivement dans le carré du silence, où il y a, je dirais pas que la configuration de la fine, mais beaucoup plus de choses. Et donc ça fait autant de planètes, autant d'univers, autant de personnages, autant de choses à créer. Est-ce que ça fait une différence entre créer un peu ou créer beaucoup? Finalement, c'est le même processus qui se...
Quand on aime, on compte pas. je travaille de façon spontanée. Je veux dire que je suis en immersion. Je ne sais pas à l'avance combien de mondes vont être visités dans l'univers. Je suis, contrairement à ma de gauche.
On a l'impression de bien se ressembler comme ça, mais en fait, on travaille absolument différemment.
Ce qui a beaucoup angoissé Alain Grousset.
Oui,
quand j'ai fait,
parce que moi, je travaille exactement comme Alain.
Et donc, je ne sais pas à l'avance. Pas du tout. C'est Alain venait après moi dans cet univers, que bizarrement il s'occupait du père, mais le père, pour des raisons de voyage, d'accélération de voyage dans l'espace, arrive 20 ans après le fils sur la planète. Donc je m'occupais du fils, lui du père, donc ça se passe après moi. Et il me disait, allô Pierre, qu'est-ce que tu prévois aujourd'hui? Parce que là, moi j'ai besoin de savoir pour mes trucs. Il dit, j'en sais rien. Il me dit, bah comment ça t'en sais rien? Je dis, non, j'en sais rien. Il me dit, mais c'est pas possible de bosser comme ça. Je dis, bah si. Donc il faudrait que tu attendes un petit peu. Et c'était étonnant parce que je ne connaissais pas ce fonctionnement-là que vous avez
tous. Alors que nous, tous les deux, on a toujours fonctionné de la même façon.
Ils sont capables de se répartir les chapitres à l'avance. Quoi. Moi, je suis incapable parce que l'univers se crée au fur et à mesure et pour les besoins de l'histoire, et il se développe et je ne sais pas comment il va se développer. Et il peut prendre des proportions. Donc, l'acte créatif est le même, finalement, qu'il y ait beaucoup d'univers ou peu d'univers. Là, j'ai Arcane, c'est un livre de fantasy, donc c'est un seul univers. C'est très petit comme espace. Hein, c'est un royaume, en quelque sorte. Encore une fois, ce sont les personnages qui imposent leur vision des choses. Et puis là, il y a des personnages qui me sont venus dans les Galles du Silence et il me semblait que c'était intéressant de les mettre sur un autre monde. Comme par exemple, le personnage qui s'appelle Oniki, qui est la nettoyeuse des grandes ordres, la tutale. Ça me paraissait intéressant d'avoir cette fonction-là précise de quelqu'un qui nettoie une barrière de corail en permanence pour que la lumière puisse pénétrer jusque dans cette espèce de sous-sol qui sert d'habitation. Et donc, il fallait créer la planète qui corresponde. Ça m'intéressait de mettre une binaire éclipse. J'ai regardé ce que c'était qu'une binaire éclipse quand même. Et donc, d'avoir des changements de couleur, du coup, entre bleu, rouge, violet, etc. Parce que ça, c'était l'effet esthétique qui m'intéressait beaucoup. Et donc, le personnage m'a imposé son monde, en quelque sorte. Et avant de partir avec ce personnage, je voulais une sorte de personne dédiée à un travail qui l'éloigne de toute vie sociale, finalement. Eh bien, elle m'a imposé son monde, elle m'a imposé sa planète, les particularités de sa planète, etc. Et c'est toujours comme ça, quoi. Ce sont les personnages qui me guident. Comment ?
C'est parti du personnage vers la planète.
Toujours, ça part toujours des personnages. C'est vraiment, les personnages, là, pour le coup, sont mes vaisseaux. Et je découvre leur univers par leurs yeux, par leurs sens, odeur, on parlait tout à l'heure, toucher, ressenti sur la gravité, la chaleur, le froid, l'humidité, enfin, etc. Et j'ai découvert que ce personnage de Nikki et sa planète qui s'appelle Ephraim, je crois, me plaisait énormément. Enfin, j'ai passé un magnifique moment avec Nikki, c'est un personnage que j'aime énormément. Donc je me laisse cette liberté-là, qui n'est pas du tout structurante comme Daniel ou Alain, c'est-à-dire moi je suis un scripturant, c'est-à-dire je pars avec l'écriture, j'organise avec l'écriture, ou c'est l'écriture qui s'organise pour moi. Et moi, si je fais une structure avant, une structure préalable, hein, c'est-à-dire une architecture, je tue le roman. Ça m'intéresse plus. Parce que ça m'intéresse plus de mettre de la chair du coup sur une architecture déjà existante. Parce que j'ai envie de découvrir le roman par l'écriture, d'être surpris, que mes personnages me guident, je traverse mes labyrinthes avec ce fil d'Ariane qui est l'écriture, et puis de découvrir plein de choses et de me surprendre moi-même. Ça, j'adore. Donc c'est de l'immersion.
Merci.
Alors que moi, j'ai besoin que le squelette tienne déjà debout et je mets la chair après. Voilà.
Alors, j'ai discuté après avec d'autres auteurs comme Serge Neyman, Alain. C'est pas ton cas, Daniel, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs purement structurants qui ont un peu de mal avec l'écriture proprement dite, parce que finalement, chez beaucoup de structurants, ce qui intéresse, c'est le squelette, c'est l'architecture. Après mettre de la chair dessus, c'est le plaisir de l'écriture. Mm-hmm. Il y a des gens qui n'aiment pas ça.
Alain n'aime pas ça.
Il n'aime pas écrire.
Alain, lui, une fois qu'on a fini le plan, il veut bien me laisser l'écrire, lui. Donc, hein. Mais on a toujours partagé le travail. Mais lui, c'est un constructeur d'histoire.
Alain, il l'appelle le matin, puis il dit j'ai une histoire pour toi.
Il est scénariste, en fait.
Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Il est scénariste. Il dit j'ai une histoire pour ta vie. Tu sais que j'ai pour 3 ans d'avance de boulot. Mais tu fais ce que tu veux avec. Et puis il me balance son histoire, et puis voilà, il me raccroche. Bon. Merci, Alain. C'était la bonne nouvelle du jour. Bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme... Jean-Marc Ligny, par exemple, qui est un autre auteur, me disait, lui, il fait une structure de 250 pages en son roman, puis il l'oublie complètement quand il commence son roman. Donc, ce qui veut dire qu'il a besoin de se rassurer au cas où il serait perdu dans son écriture, parce que l'écriture en immersion crée un moment de doute énorme, parce qu'on n'a plus la lumière de l'entrée, on n'a pas la lumière de la sortie, et on est suspendu à son propre écriture, à sa propre écriture, ce qui engendre beaucoup de doutes d'un seul coup. Et c'est là où je descendais voir ma femme et je disais, bon, il faut se suspendre à sa propre écriture et c'est pas du tout évident. C'est une autre angoisse à traverser pour les écrivains scripturants, c'est de se faire confiance jusqu'au bout, faire confiance à l'histoire qui traverse et de la suivre jusqu'au bout parce qu'on pense qu'elle va avoir sa propre logique.
Bon,
alors là, c'est chacun qui trouve sa voie.
Le temps passant, toujours aussi vite. Il nous reste encore un peu de temps pour une autre question au moins. Si vous parlez autant, il n'y a plus qu'une question. Alors.
J'aimerais revenir sur le côté scientifique de la chose. Moi aussi j'écris et un peu. Et ce qui me pose souvent souci, c'est le côté scientifique. Je ne suis pas du tout une scientifique de base. Et même si j'ai quelques notions, franchement, je galère.
Welcome.
Le côté scientifique, si vraiment c'est un background scientifique qui est nécessaire, je dirais avec Internet maintenant, moi je me sers de la Wikipédia. Quand j'ai besoin d'avoir un article synthétique sur une question que je connais mal, c'est mon premier réflexe. Il y a des auteurs qui font des recherches documentaires très approfondies. Ce n'est pas mon cas parce qu'il est rare que j'approfondisse. Moi je suis... Ça tient aussi au type de récit. Dans une nouvelle, il est rare qu'on approfondisse une culture, une époque, une technologie, en allant très très loin. Mais par exemple, je reviens toujours sur ma planète où il y a du sable. À un moment donné, j'avais besoin d'avoir, de raconter quelle était la composition du sable. Je suis allée chercher des articles. J'ai découvert qu'il y avait du feldspath, du mica et tout un tas d'autres substances, des choses que j'aurais pas su spontanément. Mais c'est facile maintenant d'aller chercher de l'information au sens encyclopédique. C'est plus difficile de vérifier si une hypothèse est plausible, si elle tient la route. Je crois qu'on est nombreux à avoir des copains dans différentes spécialités. Il y a des astrophysiciens ou des physiciens qui sont de bonne composition, et on envoie un mail, est-ce que tu penses que ça tient la route si je parle d'une étoile naine qui gravite autour d'une géante, je ne sais pas comme bleu. Bleue, et qui en plus est à éclipse clignotante. Est-ce que...
Bleu, blanc, rouge.
Est-ce que la gravité a sa surface? Il y a des forums, il y a des lieux comme ça où on peut poser des questions.
Ouais, puis on n'est pas obligé non plus d'aller dans le... Là, je viens de lire un roman qui s'appelle L'espace d'un an, qui est publié par Becky Chalmers à La Talente, qui est un roman en space opéra, dans un vaisseau où il y a tout un tas d'extraterrestres qui vivent dedans avec des humains. Et c'est un équipage, on suit ce vaisseau qui fore des trous noirs dans l'espace pour créer des voies de passage, en quelque sorte. Et on s'en fout, quoi.
Oui,
on s'en fout de savoir comment ça marche.
Le roman marche très bien
sans que... Et ce qui nous intéresse, c'est les interactions entre les personnages. Et on vit avec cet équipage en permanence. Et c'est ça qui est important. Et je pense que l'effet de réel, il est autant créé par la force des personnages que par le background scientifique. On n'est pas obligé d'entrer dans un... Parce que ça concerne 1000 lecteurs en France, ça, la science très pointue dans un univers. On n'est pas obligé d'entrer dedans. Simplement, c'est juste quand vous arrivez sur un monde et que vous avez une certaine taille de planète, et puis l'étoile qui est située à telle distance, vous avez une forme de gravité, vous allez avoir un truc un peu spécifique, la chaleur, le climat. Juste à se renseigner là-dessus, c'est très facile. Et après, ce qui est important, c'est l'histoire, enfin, je pense.
Si on s'adresse à quelqu'un, c'est pour nous rassurer, en fait. Moi j'ai jamais hésité à contacter même des gens que je ne connais pas. Mais j'ai toujours eu des réponses. Hein. Pour les oubliés de Vulcain, je me suis adressée à un scientifique spécialiste des volcans. Et quand j'ai dit bonjour, je suis écrivain science-fiction, je voudrais créer une planète volcanique, il y a eu un grand blanc au bout du fil. Hein. Alors je lui ai tout de suite dit, mais écoutez, je peux très bien vous envoyer mes livres, vous n'êtes pas obligé de me croire. Il me dit, si, je vous crois, mais j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Il dit, non, j'ai juste une ou deux questions à vous poser. Une demi-heure après, on discutait toujours. Parce que les scientifiques, ils sont absolument fascinés par ça. Il était parti comme moi. Donc moi, j'avais créé des chaînes de volcans de 300 km. Il m'a dit, non, vous voulez qu'on les voit depuis l'espace? Je dis, oui. Il me dit, alors 3000. Bon, d'accord. Et puis après, je lui dis... Il me dit, mais c'est quel type de volcan? Je ne sais pas trop, moi, des volcans, quoi. Alors, il me dit, pas de nuée ardente. Ah, mais je dis, si, j'en ai besoin d'une. Alors, il me dit, mais pourquoi vous voulez une nuée ardente? Je dis, pour tuer un de mes personnages. Parce que moi, j'avais la structure, justement. Je savais. Et alors, il me dit, mais pourquoi vous voulez en tuer un? Alors, je lui dis, parce que j'en tue un par roman. Je tue toujours celui que je fais deux colonnes, les personnages principaux, les personnages secondaires, celui que je ne sais pas où caser, je le tue. Alors il était sidéré au bout du fil, vous mourriez, mais pas lui. Et puis, il m'a dit, bon, alors, une nuée ardente, et il n'y en a qu'une, hein, vous pouvez lire les oubliés du Vulcain, il y a une seule nuée ardente dans le roman, pour tuer le personnage, voilà. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai toute une histoire aussi dans la tête avec des colonisations, des colons humains qui s'installent dans des stéroïdes, et j'ai trouvé un scientifique... qui était spécialiste, c'est lui qui vient de cartographier une partie, c'est un Français, Cocorico, qui vient de cartographier une partie de la ceinture d'astéroïdes. J'ai envoyé un mail, il m'a répondu tout de suite, et puis il m'a donné les proportions. Il m'a dit, mais vous voulez mettre combien de personnes? Alors j'ai dit, bon, alors, il m'a donné la taille des astéroïdes pour tant de personnes à l'intérieur, etc. Ouais. Il s'est amusé comme un petit fou aussi, quoi. Ouais, et donc, c'est sympa, quoi. Je trouve ça super.
Vous avez la définition exacte de la différence entre un structurant et un scripturant, c'est qu'elle sait quand ses personnages vont mourir et moi je ne le sais pas.
C'est un paquet. Ouais. Bon, je suis vraiment désolé parce qu'on serait bien resté encore longtemps avec les auteurs et leurs personnages et leur planète, mais le temps est écoulé, donc je vous remercie énormément d'être venus. Je remercie nos auteurs d'avoir joué le jeu et d'avoir suivi toute cette... cette séance. Voilà. Donc merci encore et puis merci à vous.
Et n'oubliez pas le code postal.
Et n'oubliez pas le code postal. Hein.